Allô, allô? Bonjour, bonjour. C'est toujours un plaisir de se réunir, n'est-ce pas, pour louer le Seigneur et apprendre à mieux le connaître. Donc, ce matin, je vous invite à tourner dans vos Bibles, dans l'Épître aux Hébreux. OK, faut que j'allume ça. C'est bon. Pour ceux qui assistent régulièrement, vous savez qu'on, depuis plusieurs mois, on est dans une série qui traite du thème de la souffrance. On a vu beaucoup d'aspects théoriques, théologiques sur les origines de la souffrance, etc. Et dans les dernières semaines, on s'applique à voir comment, en pratique, vivre à travers la souffrance, comment les Écritures nous enseignent à aborder la souffrance, à l'apprivoiser. Et notre frère Étienne nous a parlé des aspects pratiques comme marcher dans la souffrance, ne pas essayer de contourner ou d'éviter, mais si la souffrance se présente à nous et qu'il faut qu'on la traverse, bien de marcher à travers la souffrance, de continuer à marcher. Il nous a parlé aussi de pleurer, qu'on a le droit et Dieu veut qu'on lui exprime notre douleur, qu'on lui exprime notre tristesse, qu'on lui expose nos cœurs. Qu'est-ce qu'on vit? On voit dans les Écritures, « Répands ton cœur devant le Seigneur. » Et le Seigneur Jésus l'a vu, l'a fait. On va le voir encore ce matin. On a vu aussi de faire confiance. La semaine passée, on a vu l'histoire de Joseph, comment les souffrances, l'injustice, les abus et tout que Joseph a souffert, les fausses accusations, les douleurs physiques également, être emprisonné, tout ça. Il a souffert beaucoup, Joseph, mais Joseph a toujours fait confiance à Dieu malgré tout. Donc, on a vu ces aspects-là, puis en réfléchissant à cet dernier aspect, la notion de confiance va être centrale ce matin dans ce qu'on va regarder. Ce matin, on va poursuivre dans la même veine, puis à considérer envers qui on va faire confiance. Quelle est la personne envers qui on va faire confiance? Puis le thème, le titre du message ce matin, c'est le Sauveur parfait, vers qui se tourner lorsqu'on souffre. Donc, je vous invite, comme j'ai dit, à tourner dans Hébreux, chapitre 2, et je vais lire dans la version sommaire. Au verset 10. « En effet, Dieu, qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils ou d'enfants à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par les souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. » Quel merveilleux verset, n'est-ce pas? On a l'Évangile dans un petit noyau là, distillé, là, réduit. C'est incroyable. Dieu qui a créé toutes choses, pour qui toutes choses existent, avait un désir. Et ce désir-là, c'était quoi? De conduire beaucoup d'enfants à participer à sa gloire. Wow! Mais pour ce faire, il fallait que celui qui allait ouvrir le chemin pour eux, il fallait qu'il soit élevé à la souffrance ou amené à la perfection par les souffrances. On va voir ça veut dire quoi ce matin. Car Jésus, et il s'agit bien de Jésus, qui purifie les hommes de leurs péchés, et ceux qui sont ainsi purifiés, partagent la même humanité. Jésus et ceux qu'il sauve partage la même humanité. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères lorsqu'il dit à Dieu, « Je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. » Il dit aussi, « Pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. » Et encore, « Me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. » Ce sont des citations de l'Ancien Testament tirées du psaume 22 et d'Ésaïe chapitre 6. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant par la peur de la mort. Ce n'est évidemment pas pour porter secours des anges qu'il est venu. Non, c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté, de miséricorde et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu. Ou d'être un prêtre qui fait le lien entre Dieu et les hommes, en vue d'expier les péchés de son peuple. Car, puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Prions. Mon Père Céleste, quel passage extraordinaire. Ta parole est lumière, Seigneur. Et on veut recevoir ta lumière ce matin, dans nos cœurs. On veut l'accueillir, Seigneur, qu'elle chasse en nous tout ténèbres. Qu'elle éclaire de la lumière qui apporte la vie. Oui, Seigneur, ce matin, on veut laisser toute la place à ton Esprit Saint pour nous parler. On repousse toutes les autres voix, les voix de ce monde, les voix de notre chair, la voix de Satan. On veut entendre ta voix, cher Père. Viens, Saint-Esprit, prendre le contrôle de cette rencontre pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, ce matin, nous allons considérer une personne digne de confiance lorsque nous souffrons. Il est le chef de notre salut, le Sauveur. Ce matin, je vous invite à considérer avec moi pourquoi Jésus est le Sauveur parfait. OK? Alors, le plan, c'est de quelle façon Jésus devait-il être rendu parfait? Quelle souffrance a-t-il vécu? De quoi peut-il nous sauver? Et tu peux t'approcher de lui avec confiance. Donc, on a vu la souffrance, marcher, pleurer, faire confiance, et on est rendu là à qui on va faire confiance. Donc, le passage nous dit ici que Jésus devait être rendu parfait. C'est frappant. C'est pour tous ceux qui connaissent tant soit peu les Écritures, on sait très bien que Jésus nous est présenté comme étant le Fils de Dieu, sans faute, sans tache, sans défaut et sans péché. Comment se peut-il que Jésus doive être rendu à la perfection? Donc, il est clairement dit au verset 10 que Jésus devait être rendu parfait ou être élevé à la perfection. De quelle perfection l'auteur parle-t-il? Évidemment, il est possible que ce soit la perfection au sens de la pureté, car dès avant sa naissance, l'ange Gabriel avait déclaré à Marie « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Enfant. Jean le baptiseur l'appelle « l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et on sait que pour ce faire, il fallait qu'il soit lui-même parfait sans péché à lui, sinon il ne pouvait pas enlever les péchés du monde. On a le témoignage du Père aussi qui ouvrit le ciel pour dire « Voici mon bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. » Il n'y avait rien en Jésus qui offensait Dieu, rien qui repoussait Dieu, rien qui pouvait empêcher Dieu de le bénir complètement à 100%. Ensuite, nous avons celui, le témoignage des apôtres. Pierre déclare qu'il n'a jamais commis de péché, 1 Pierre 2, 22. Paul dit qu'il était innocent de tout péché, 2 Corinthiens 5, 21. Et Jean déclare qu'il n'y a en lui aucun péché, 1 Jean 3, 5. Alors, évidemment, il ne fallait pas que Jésus soit amené à la perfection de la sainteté, puisqu'il était déjà. Non, le texte nous indique que le sens du mot parfait ici est plutôt celui de complet ou parfaitement adapté. Il fallait que le Sauveur des hommes soit rendu parfaitement adapté à ce rôle par le fait de prendre sur lui la nature humaine, le corps humain, et de traverser tous les éléments de la condition humaine que nous vivons sur cette planète. Les citations de l'Ancien Testament nous sont fournies par l'auteur en preuve de cela, étant le plan dès le début. Dieu l'avait déjà indiqué par les prophètes David et Ésaïe. Tout ça, c'était le découlement du projet de Dieu. Dieu voulait en effet conduire beaucoup d'enfants à participer à sa gloire. Et pour ce faire, il fallait que le Sauveur qui allait accomplir ce projet vienne et prenne part à la même nature humaine qu'eux, mais souffre aussi les mêmes choses qu'eux, pour pouvoir leur en sortir. Ouais, OK. Imaginez pour un instant que vous êtes frappé d'une forme très rare de cancer qui met votre vie en péril. Votre vie en est bouleversée, vos proches aussi. C'est un vrai cauchemar. Là, on vous réfère à un oncologue pour qu'il vous rencontre et vous parle des options de traitement possibles. Vous vous présentez au rendez-vous et entrez dans son bureau. En attendant qu'il entre, vous notez tous les diplômes et certificats de spécialisation accrochés au mur. Vous vous rappelez que votre médecin de famille vous avait déjà assuré que c'était le meilleur spécialiste au pays pour traiter ce genre de cancer. Il entre et vous questionne sur vos symptômes, il vous examine et il vous prescrit toute une batterie de tests. Vous vous rendez vite compte qu'il sait par où il s'en va. De plus, vous êtes ravi de vous rendre compte que c'est un médecin très humain qui prend le temps de vous écouter. Il est attentionné et compatissant. Il prend le temps de répondre à toutes vos questions. À la fin de l'entretien, vous vous levez pour quitter, mais il vous arrête gentiment et vous dit « J'ai juste une dernière petite chose à vous dire avant que vous ne quittiez. » Alors vous vous rassoyez. Il vous dit « J'ai passé par là, moi aussi. » « Pardon, docteur? J'ai eu ce même type de cancer moi-même il y a quelques années, alors je comprends ce que c'est de passer par là. Je suis avec vous. » Et vous allez vaincre ce cancer comme moi je l'ai vaincu. D'accord? Quelle serait votre réaction à ce qu'il vous a dit? Quels seraient vos sentiments envers ce médecin? Alors, c'est exactement ce qui nous est présenté ce matin dans ce beau passage. Le Sauveur parfait, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est compétent, il est compatissant et il est capable. Le médecin, s'il était simplement compatissant et gentil, mais il n'était pas capable de vous aider, vous diriez, bien, merci beaucoup de votre compassion, mais on va cogner à la prochaine porte. Hein? Mais ici, nous avons quelqu'un de compétent, de compatissant et de capable de nous secourir. Maintenant, quelle souffrance Jésus a-t-il vécu? Jésus a souffert tous les inconforts physiques tels que la faim, la soif, la fatigue, la chaleur. De plus, il a été battu, fouetté, on a placé une couronne d'épines sur sa tête, on l'a enfoncé à coups de bâton. Puis, on l'a mis à mort de la façon la plus atroce et souffrante qui soit. Donc, Jésus a souffert physiquement. Il a passé par là. Jésus a souffert dans ses émotions. Il a souffert de la tristesse. Il a dit dans le jardin de Gethsémané que son âme était triste jusqu'à la mort, jusqu'à en vouloir mourir. Avez-vous déjà été là? Avez-vous déjà vécu là une profonde tristesse que vous vouliez juste en finir avec vos jours? Jésus a passé par là. Jésus comprend. La version Sommer dit « Je suis accablé de tristesse en mourir. » Pourtant, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que c'est un péché alors d'être triste jusqu'à en vouloir mourir? Non, c'est de souffrir dans ses émotions. Et Jésus a souffert cette tristesse. Jésus a souffert le sentiment d'abandon lorsque tous ses disciples s'enfuirent et le laissèrent seul à son arrestation. Mettez-vous à sa place. Les gars avec qui il vient de passer 3 ans, jour et nuit, à manger, à être en mission, à rire, à pleurer, à affronter tous les éléments. Les gars avec qui il se sent comme des frères, partis. Ils ne sont plus là quand c'est le moment le plus critique. Jésus a souffert l'abandon. Lorsque ses disciples s'enfuirent et le laissèrent seul à son arrestation. Encore sur la croix, il s'écria, « mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Est-ce qu'il savait, est-ce parce qu'il ne savait pas la raison? Non, il exprimait les sentiments de son cœur. Jésus a souffert le deuil de son ami. Excusez. Lazare. Parce qu'on a perdu un bon ami, nous autres, à l'automne. Jusqu'à ce qu'il le ressuscite, Jésus a souffert cette tristesse. Il en a pleuré, on a vu qu'il a pleuré de rage face à la mort de Lazare. Il a souffert la trahison de Judas, trahi, le mépris de ses frères, les frères qui ne croyaient pas en lui au début. La haine des autorités religieuses et politiques, le rejet de la foule lors de son procès. Jésus fut également victime de fausses accusations et d'injustices de la pire sorte. Il souffert l'abus physique et psychologique des soldats qui se moquaient de lui et la honte publique, pour couronner le tout, la honte publique d'être exposé à moitié nu sur une croix comme un spectacle public. Jésus a souffert physiquement et dans ses émotions. Mais Jésus a également souffert spirituellement, parce que l'être humain est composé de corps, âme et esprit. Et Jésus a souffert spirituellement. Il fut constamment la cible des attaques de Satan, et c'est bien lui, Satan, qui entra dans le cœur de son disciple Judas pour l'inciter à trahir à la fin. Mais là où il a souffert le plus spirituellement, bien sûr, c'est sur la croix. Car c'est là qu'il fut séparé spirituellement de son Père et que la colère du juste juge de l'univers contre toutes les injustices, méchancetés, abus, mensonges et meurtres des humains se rabatta sur lui. Les films qui nous dépeignent la crucifixion peuvent nous donner un aperçu des souffrances de Jésus-Christ. Vous vous rappelez le film Mel Gibson, là? C'était très difficile à écouter. On voit Jésus fouetté avec les fouettes, ce qu'on appelle les scorpions, là. C'était des lanières de cuir à laquelle ils attachaient des morceaux de métal. Ça arrachait la peau. C'était dur, c'était incroyablement difficile de voir ça puis de le voir cloué physiquement. Les films peuvent nous donner un aperçu des souffrances physiques du Christ, mais on ignore presque totalement les souffrances spirituelles qui étaient infiniment plus grandes. La parole nous dit qu'il souffert la mort, pas juste la mort physique, qui est la séparation de l'âme avec le corps, mais également la séparation spirituelle avec son Créateur. Toutes les souffrances de cette terre, en réalité, retracent leurs origines à cette mort, à cette séparation spirituelle avec le Dieu Créateur, source de toute bonté, d'amour et de vie. La condition humaine est marquée par la souffrance à sa fondation par la séparation de l'être humain spirituellement avec son Créateur. Il y a des fois, je sais que je vous l'ai dit plusieurs fois, mais il y en a peut-être qui ne l'ont pas entendu. Il y a des fois des gens qui, dans mon bureau, me disent « Oh, docteur, je pense que l'enfer, c'est sur la terre. C'est sur la terre. » Au tout début, il y a plusieurs années, je me suis dit « Non, 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 c'est pas ça. » Mais là, j'ai changé. J'ai dit, vous avez raison, en partie. Vous avez raison en partie. Parce que la Bible nous présente l'enfer comme étant un état de souffrance incroyable dû à la séparation d'avec Dieu. Et la Bible dit que actuellement, les êtres humains sont déjà séparés d'avec Dieu. Vous vous demandez pourquoi ça va mal dans le monde. C'est parce que nous vivons déjà une partie de l'enfer sur terre. Alors vous avez raison en partie. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là parce que si vous ne réconciliez pas avec le Père là, ça va continuer, mais pour l'éternité. Donc, toutes les souffrances de cette terre, de cette humanité, retracent leurs origines à cette mort spirituelle, cette séparation d'avec Dieu le Créateur, source de toute bonté, source de tout l'amour et de vie. Et Christ a subi cette souffrance, cette séparation spirituelle que nous étions, dont nous étions aussi les victimes d'une certaine façon. Christ, le Sauveur parfait, le Sauveur parfait, puisqu'il a pris sur lui non seulement notre condition humaine dans tous ses aspects, mais il a souffert dans toutes les sphères que vous et moi pouvons souffrir, même spirituellement. Non pas bien sûr pour ses propres péchés, mais pour les nôtres qu'il a pris sur lui. Paul nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ou dans la version sommaire, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Pensez-y, le Fils éternel de Dieu, le parfait, le sans péché, l'agneau de Dieu, lui là, qui a toujours été en parfaite communion de Dieu, il est traité comme un coupable par Dieu. Il souffre ce que vous et moi, en tant qu'êtres humains, et que tous les êtres humains souffrent, cette séparation d'avec Dieu, à cause de nos fautes, à cause de nos erreurs, à cause de notre rébellion. Jésus a souffert ça. Autrement dit, Jésus a souffert l'enfer. Il a souffert l'enfer. Voilà en fait ce que l'auteur du texte nous indique au verset 14 à 17. Je vous invite à relire avec moi. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair, nous là, nous partageons une même humanité, une même nature humaine, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. N'est-ce pas incroyable? Il l'a fait pour réduire l'impuissance par la mort, celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant, par la peur de la mort. Ce n'est évidemment pas pour porter secours des anges qu'il est venu, non. C'est la descendance d'Abraham qui vient en aide, c'est-à-dire les descendants physiques et spirituels d'Abraham, les êtres humains. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre qui peut les sauver. Donc, la perfection dont il est question ici n'est pas la perfection sans péché, que Christ devait être rendu à la perfection d'être sans péché, mais rendu parfaitement adapté comme sauveur, en prenant sur lui notre condition et en vivant, en expérimentant toutes les souffrances que nous pouvons subir. Quel sauveur merveilleux! Maintenant, de quoi Jésus peut-il nous secourir? Je ne sais pas, ça ne veut pas avancer. OK. Il y a quatre choses merveilleuses dans ce passage-là. Première des choses, c'est au verset 14, nous venons de le lire, « Il peut nous délivrer de la puissance de notre ennemi mortel, Satan. » Ainsi donc, puisque ses enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions, il a fait pour réduire à l'impuissance par la mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Pour réduire à l'impuissance. Une autre version dit pour détruire le diable, non pas dans le sens de le détruire, de l'anéantir, mais dans le sens de l'écraser. Comme c'est marqué dans la Genèse, quand Dieu dit que le serpent va mordre le talon de l'enfant à Ève, mais son descendant va écraser le serpent. Donc, premièrement, le Seigneur Jésus veut nous délivrer de la puissance de notre ennemi mortel, Satan. Il nous a dit qu'il a été rendu impuissant celui qui détenait la puissance de la mort. Satan est le pire ennemi de l'homme parce qu'il cherche à le détruire. Comment? En l'entraînant à vivre une vie loin de Dieu. En lui soufflant des mensonges tels que Dieu n'existe pas vraiment. Ou tu penses-tu vraiment qu'il existe un enfer? Voyons donc. Ou Dieu est trop bon pour punir qui que ce soit. Ou encore, après la mort, il n'y a rien. Ou sinon, tu reviens dans un autre corps pour repasser une autre fois afin de te perfectionner. C'est Satan qui souffle ces mensonges-là aux êtres humains. Aussi, Satan réclame à Dieu la peine capitale à tous ceux qui pêchent. On l'a vu avec Étienne. Je répète, Satan réclame à Dieu la peine capitale à tous ceux qui pêchent. C'est comme si Satan est ému d'une colère jalouse extrême, parce que lui-même, il a été exclu de la présence glorieuse de Dieu par le fait qu'il s'est révolté contre Dieu. Alors, il ne peut pas tolérer l'idée que les êtres humains soient admis en présence de Dieu, et il veut les entraîner avec lui à leur perdition. Satan et ses adjoints vont jusqu'à suggérer aux gens de s'enlever la vie. On a entendu ça dernièrement. Moi, j'ai entendu ça à plusieurs reprises dernièrement. Des gens qui avaient tenté de s'enlever la vie. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Tout d'un coup, j'ai eu cette idée-là. Plusieurs gens m'ont dit ça. Tout d'un coup. Je n'étais pas déprimé, je n'étais pas... Tout d'un coup. Et il y a des gens, depuis un an ou deux dans notre entourage, on n'avait aucune idée qu'ils étaient mal en point. Ils s'enlèvent la vie. Bien sûr, il peut y avoir des causes psychologiques, psychiatriques, mais je crois honnêtement que Satan et ses adjoints vont souffler aux gens. Tu sais, tu souffres, ça serait facile là, d'arrêter la souffrance. Enlève-toi la vie. Satan et ses adjoints vont souffler aux gens de commettre des atrocités contre d'autres et suggère aux autres que tout ça, bien, c'est la faute de Dieu finalement, qui laisse faire et qui n'intervient pas. Heureusement, Jésus-Christ a non seulement gagné contre Satan et n'a jamais succombé à aucune de ses tentations de péché ou de se révolter contre Dieu, mais Jésus-Christ lui a enlevé l'arme mortelle qu'il détenait, c'est-à-dire la mort. Jésus a arraché l'arme aux mains de Satan. En mourant lui-même sur la croix, en offrant la possibilité aux êtres humains de vivre éternellement, il réduit à l'impuissance l'arme et Satan lui-même. Tous ceux qui viennent à lui, qui deviennent ses enfants, sont saints et saufs de l'ennemi. Il ne peut rien contre eux. Même s'il réussit à les tuer physiquement, ils ressusciteront. Je répète, même si Dieu permet à Satan que certains de ses enfants trouvent la mort, ce n'est pas la fin. Ils vont ressusciter. Deuxième chose, le passage nous dit au verset 15, c'est que Jésus délivre de l'esclavage de la peur de la mort. Alors, il y a Satan, notre ennemi, mais il y a un esclavage qui est marqué là, c'est la peur de la mort. En réalité, les humains détestent réfléchir à la mort. Pourquoi? Parce qu'ils en ont une peur bleue. Ils veulent à tout prix éviter d'en parler. On est rendu avec des visites au salon qui durent à peine 2 heures et le service est conclu le plus tôt possible pour pouvoir passer à d'autres choses. Pas vrai? Dans leur peur de la mort, les humains deviennent asservis à toutes sortes de choses qui servent d'échappatoire. C'est subtil. Ils deviennent esclaves de passions de toutes sortes. Ils deviennent passionnés de la moto, ils deviennent passionnés de la pêche, passionnés de la mode, passionnés de la cuisine, de la pornographie, de la chasse, des jeux vidéo, de l'alcool, bref, n'importe quoi pour les engourdir et les empêcher de penser à quoi? Leur propre mortalité. Mais ces choses-là conduisent inévitablement à la déception, à une sorte d'esclavage. Jésus est le seul à pouvoir nous libérer de tout ça en nous libérant de la peur de la mort qui nous hante en tant qu'être humain et qui nous pousse à faire toutes sortes de folies. Troisièmement, nous voyons au verset 17, voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards, semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre, plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple. Jésus est le seul à pouvoir nous sauver du juste jugement de Dieu. Parce qu'il a fait l'expiation, ça veut dire payer, enlever notre péché, sur la croix par son sang. Et tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent au juste jugement de Dieu et à la mort. Jésus est le seul sauveur à pouvoir vous offrir ce salut. Et finalement, au verset 18, nous lisons que puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Jésus peut nous secourir dans toutes nos épreuves. Il y a plusieurs façons de nous secourir, n'est-ce pas? Plusieurs façons de secourir quelqu'un qui traverse une épreuve. Il peut nous donner la force pour traverser l'épreuve, comme on a vu avec Étienne, marcher dans la souffrance. Il peut nous donner la force. Il peut nous secourir de cette façon-là. Ou il peut nous sortir carrément de l'épreuve. Les deux sont une forme de secours. Et c'est parce que lui-même a été éprouvé qu'il peut nous comprendre, qu'il peut avoir compassion de nous et qu'il est capable d'intervenir. Je ne sais pas si tu peux avancer, Étienne. Donc, tu peux t'approcher de lui avec confiance. Le verset 17 nous dit, « Voilà pourquoi il devrait être rendu à tous égards, semblable à ses frères, rendu parfait, rendu parfaitement adapté à être notre sauveur, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance. » Pourquoi tu peux faire confiance à Jésus? C'est qu'il te comprend. Il a passé par là. Il est compatissant. il est capable d'intervenir. 3C. Puisque Jésus est le seul qui peut te comprendre complètement, qui a compassion et qui est capable d'intervenir pour te soutenir ou te secourir d'une situation, tu peux t'approcher de lui avec confiance. Jésus a passé par tous les types de souffrances, tous les types d'épreuves que tu vis en ce moment. En tant qu'homme, il a dû faire confiance à son Père. Au début du passage, on a lu ça. Moi, j'ai confiance. Je ferai confiance à Dieu. En tant qu'être humain, Jésus, il a fallu qu'il fasse confiance à son Père. Il est le Sauveur parfait. Comment s'approcher de lui? Comment s'approcher de lui? Mais regardons l'exemple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus faisait lorsqu'il était dans la souffrance? Il allait au Père, exprimait ce qu'il ressentait. En tant qu'homme, qu'est-ce que Jésus faisait? Il priait. Il se retirait. Il allait à la rencontre de son Dieu dans l'intimité. On le voit dans le jardin de Gethsémané, en train de répandre son cœur devant le Père, en ne rien cachant de toutes ses émotions. Et il nous donne donc l'exemple. Mais Jésus suscitait également, dans le jardin de Gethsémané, il souhaitait d'être accompagné par ses frères. Il dit, « Ne pouvez-vous pas m'accompagner une heure dans la prière? » Donc, quand on souffre, on devrait s'approcher de Dieu dans la prière. Et parfois, on a besoin d'être accompagné dans la prière par nos frères et nos sœurs. « Veillez avec moi, » dit-il à ses disciples. Donc, ce matin, nous avons un Sauveur parfait. Donc, s'approcher de lui avec confiance. Et finalement, nous avons un Sauveur parfait parce qu'il est... Il peut comprendre ce qu'on vit, il a vécu. Il a un cœur de compassion, plein de compassion, et il est capable d'intervenir. Ce matin, j'aimerais te demander, as-tu été délivré de la peur de la mort? Est-ce que tu as peur de la mort? Jésus est le seul qui peut te libérer de la peur de la mort. Il est le seul qui peut offrir l'immortalité. Le seul. As-tu peur de Satan? As-tu peur des démons? As-tu peur du monde spirituel? Jésus est le seul qui peut te libérer de Satan et de tout ce monde spirituel maléfique. Ce matin, est-ce que tu souffres physiquement? Est-ce que tu souffres dans tes émotions? Est-ce que tu souffres spirituellement? On n'a pas l'habitude de parler de souffrir spirituellement. Mais souvent, on souffre la honte d'être loin de Dieu, la honte d'avoir fait quelque chose. La Bible dit que Jésus, sur la croix, non seulement a pris tes péchés, mais il a pris la honte qui allait avec. Jésus est le seul qui peut comprendre et qui peut te délivrer des souffrances physiques, émotionnelles et spirituelles. Il est le Sauveur parfait. Jésus est là au milieu de nous. Il t'attend. Qu'attends-tu? Alors, on va poursuivre dans un temps d'adoration. Et je vous invite à l'adoration, à la confession et à l'engagement à vous approcher de lui. Merci.